oui, on a tous hâte de voir comment le Canadien va rebondir ce soir à Dallas après le fameux 6-0 de samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto. Pour mettre la table, le collègue Jérémy Filosa est en bout de ligne. Salut Philo!
Salut!
Alors ce soir, c'est évidemment les retrouvailles avec Radulov, mais c'est surtout un gros test de caractère pour le Canadien.
Ben écoute, ces deux matchs-là, là, c'est loin d'être gagné d'avance. Tu sais, quand on regarde ça de loin, on se dit... Ouf, ça va être difficile d'aller même chercher un point dans ces deux matchs-là. Même si les Stars de Dallas, présentement, sont à l'extérieur du portrait des séries dans l'Ouest, là, sont 11e, ils ont quand même 21 points en 20 matchs, donc ils jouent pour au-delà de 500. C'est quand même mieux que le Canadien. Puis, tu sais, ce soir, Ken Hitchcock a l'intention de réunir sur son premier trio Jamie Benn, Tyler Seguin et Alexander Radulov.
Aïe, aïe.
Imagine-toi le premier trio qu'ils vont avoir de l'autre bord. Puis, tu sais, ça a tellement mal fini entre le Canadien et Radulov, surtout Bergevin et Radulov, je dirais, parce que les négociations ont été très corsées. Bergevin, souvenez-vous, avait fait une sortie pour dire que Radulov demandait la lune. Finalement, à la dernière seconde, le Canadien s'était ravisé, avait supposément égalé l'offre des Stars, mais Radulov avait déjà dit aux Stars qu'il acceptait leur offre. Bergevin avait dit qu'il avait été malhonnête là-dedans. Donc, ça s'est mal terminé. C'est sûr que Radulov va avoir de l'argent sur le tableau ce soir. Ça, c'est clair. Il va vouloir bien paraître et surtout essayer d'humilier son ancienne équipe. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est une semaine qui est crucial, pas au niveau du classement, mais au niveau organisationnel.
Ouais, pour la suite des choses.
Oui, parce que si ce soir puis demain, le Canadien se fait planter, là, tu sais, 4-1, 5-1, puis là-dedans, là, tu as Radulov qui en marque une coupe, puis Subban demain, une coupe de beaux jeux, une coupe de belles passes, à un moment donné, la marmite va finir par sauter, là. T'sais, ça peut pas rester de même. Là.
Ça ne ferait que rajouter de l'huile sur le feu. Et là, on parle beaucoup de Radulov, mais Yemelin, lui, disait dans le journal de Montréal aujourd'hui que la plus grosse perte chez le Canadien, c'est Markov.
Oui, c'est ce que lui analyse. C'est sûr que là, il est très humble là-dedans. Là. Il aurait pu facilement dire « c'est moi la plus grosse perte » ou quoi que ce soit. Ou, il aurait pu parler de Radulov aussi, parce qu'il y en a eu quand même des grosses, des importantes. Mais lui, il disait que c'était Markov à cause de son âge, son expérience et tout cela. Puis, tu sais, il a dit que Markov était très triste d'avoir dû quitter. Parce que, regarde, on se comptera pas d'histoire, là. Le Canadien ne voulait plus de Markov. Okay, ça, c'est clair. Là. Je veux que les gens arrêtent de dire que le Canadien a échappé le dossier de Markov. Non, non, c'était une décision organisationnelle qui avait été prise. On n'en voulait plus de Markov. Ça, c'est la raison pourquoi il est parti.
Écoute, je te pose la question. Oui. Est-ce qu'on voulait moins de Russes? Ou ça n'a pas rapport?
Je sais pas. Je pense que c'est juste une coïncidence. Honnêtement, là, je pense pas que ça a donné comme... Je pense pas que ça... Tu sais, la réflexion est partie à partir de là parce que je pense que Radulov, on voulait le garder. Ça n'a juste pas fonctionné. Tu sais, Emeline, j'ai trouvé ça un peu surprenant parce que je pense qu'on aurait pu jouer nos cartes très différemment pour ce qui est du repêchage d'expansion. Pour moi, le gars qu'on aurait dû exposer, c'est Jamie Benn, mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que ça a juste à donner comme ça. Mais ce qui est curieux dans l'entrevue, dans le journal de Emeline, c'est qu'il dit « Étant donné que j'ai juste une année de contrat, il me reste une année, après ça, je tombe joueur autonome le 1er juillet, j'ai laissé ma famille à Montréal. Donc, ma femme et mes enfants sont demeurés à Montréal. Les enfants continuent d'aller à l'école à Montréal. » Ça veut donc... Est-ce que ça veut dire que dans sa tête à lui, il se dit peut-être « Garde, le 1er juillet, là, moi, là, si je veux rendre les choses pas mal moins compliquées, je signe à Montréal, puis mon problème est réglé. Je rentre à la maison, ma femme est déjà là, mes enfants aussi sont déjà inscrits à l'école. Ça règle un problème. » Je sais pas. Sinon, pourquoi aurait-il parlé de cela? T'sais? En tout cas...
On peut penser qu'il garde la porte ouverte, maintenant.
Ben, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Es-tu fou? Le Canadien l'a exposé au repêchage d'expansion. C'est sûr qu'il leur pardonnera pas. » Mais des fois, tu parles à ta conjointe, puis ta conjointe, à un moment donné, elle dit « Garde, moi, je suis heureuse ici, puis les enfants vont bien, puis tout ça, puis... » Tu ravales, puis tu dis « OK, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire. »
Mais on jase, Jérémy. Puis j'ai rien contre Drouin. Là. C'est une bonne acquisition. Mais je regarde Sergachev aller là-bas, là, à Tampa Bay. Là. Mettons que le Canadien avait dit « Bon, ben là, regarde, on va garder notre argent pour Radulov, puis on va garder Sergachev, étant donné qu'on a échangé Piqué, puis on a besoin d'un jeune comme ça pour mettre un petit peu de dynamisme à côté de Weber. » Tu sais, je pense que ça aurait été une bonne décision en bout de ligne.
Je pense que la transaction Drouin-Sergachev, c'est une transaction qu'on va pouvoir analyser sur plusieurs années. Parce qu'on parle de deux très jeunes, talentueux joueurs de hockey. Moi, j'ai pas de problème avec cette transaction-là parce qu'on sait que le Canadien avait de la difficulté à marquer des buts. Ça prenait du talent. Ça prenait aussi quelqu'un qui allait donner un show. Parce que quand t'as perdu Radulov, quand t'as perdu Piqué Subban, c'est qui le gars dans le building qui te fait lever? Fait qu'on s'est dit, Jonathan Drouin va être cet homme-là. Ça, il y a pas de problème.
Ouais, en même temps, c'est un Québécois. Alors, ben, exactement. On chante souvent qu'il est passé de Québécois, mais je trouve ça bizarre qu'on ait sacrifié un Sergachev après avoir échangé Piqué Subban.
Oui. Non, écoute, t'as peut-être raison, puis sachant que Markov ne revenait pas, puis là, on savait qu'il n'y avait personne dans cette organisation-là pour transporter la rondelle et faire une première bonne passe. Puis dans le fond, sais-tu quoi? Ils ont été bénis des dieux que Victor Mété est sorti des boulamites puis qu'il leur a donné un coup de main à ce niveau-là.
Ouais,
parce
pour
qu'il
le
n'a
début
pas d'autre
de la saison, mais là, c'est moins facile.
Oui, non, là, c'est moins facile. Mais au moins, en début de saison, il leur a donné un coup de pouce, puis les autres, ils ne le voyaient pas en tout dans le portrait. Fait à ce niveau-là, ils ont été quand même un peu chanceux. Mais c'est sûr que Marc Bergevin, quand il regarde le portrait d'ensemble présentement, puis qu'il voit le début de saison de Piqué à Nashville, le début de saison de Radulov avec les Stars et le début de saison de Sergachev à Tampa,
oui.
Doit pas filer très, très gros dans ses shorts.
Ça fait mal.
C'est ça.
La femme de Carey Price qui a remis les pendules à l'heure.
Ouais, écoute, je suis un peu content qu'elle l'ait fait, puis je me demande si c'est à la demande du Canadien, tu sais, parce qu'à un certain moment donné, là, on est en train de virer fou avec la vie privée de Carey Price, là. Et, écoute, là, si tu savais le nombre de courriels que je reçois, puis de text-messages, puis de tout ce que tu voudras, des messages sur les médias sociaux, à savoir, Carey Price trompe-tu sa femme, puis veux-tu le laisser, puis es-tu heureuse ici, puis veux-tu s'en aller, puis es-tu en train de vivre une crise postpartum, puis hey, j'ai dit, moi, là, j'en ai aucune espèce d'idée, puis ça m'intéresse pas.
À un moment donné, il y a des limites, là.
Ben, come on, là. Je veux dire, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est le gars, il fait-tu la job sur la patinoire? Si la Canadienne nous dit, écoute, il y a des problèmes familiaux, moi, j'irai pas plus loin que ça. Gars, il y a des problèmes à la maison. On a tous des problèmes à la maison, puis c'est pas à moi d'aller fouiller puis me mettre le nez là-dedans puis savoir qu'est-ce qui se passe dans sa chambre à coucher. Mais pas du tout, du tout, du tout. Je l'ai jamais fait, puis je le ferai jamais. Mais bon, là, on a senti qu'il y avait trop de pression, que les rumeurs sortaient de nulle part, puis là, elle a décidé sur Instagram de dire, écoutez, il n'y a pas de problème dans notre couple, ça va bien, puis tout ça. Puis, tant mieux pour eux autres. Puis si ça va pas bien, je leur en voudrais pas non plus. Moi, ce qui intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur la patinoire.
Bon, ben, il revient-tu demain, lui?
Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce sera pour demain. Je pense que, écoute, hier, c'était un premier entraînement avec son équipe. Donc, aujourd'hui, un deuxième. Moi, je pense que ça va plutôt aller à samedi contre Buffalo. Là, il aura eu la chance de pratiquer presque une semaine complète avant de revenir au jeu. Moi, je pense que c'est ça le scénario idéal.
Donc, tu es en train de me dire que ce serait Niemi demain contre Nashville?
Ben, pas nécessairement.
Mais là, Lindgren, il a besoin d'un break, je pense.
Oui, ben écoute, si Lindgren fait bien ce soir, je pense que c'est lui demain pareil. Parce que de toute façon, il va retourner à Laval. Tu sais, il restera pas ici. Si Price est prêt à revenir, Price va reprendre le filet. Niemi va être le deuxième. Puis de toute façon, Lindgren, ben il s'en retourne à Laval. Fait que c'est pas la fin du monde s'il joue deux matchs en deux jours. Comprends-tu?
Ouais, je comprends.
Ceci dit, s'il se fait planter ce soir, là, c'est pas impossible qu'on ait Niemi devant le filet pour le match contre Nashville.
Et en terminant, Jérémy, un mot sur les séries de la MLS. Parce que même s'il y a de la neige ici, ben la saison de soccer n'est pas terminée.
Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des séries de la MLS qui reprennent après deux semaines de pause. Écoute, à surveiller ce soir. Si jamais le match de hockey est plate, là, regardez donc le match entre le Toronto FC et le Crew de Columbus. À noter deux choses. Pas de Giovinco et pas de Altidore pour le Toronto FC dans le premier match de cette série aller-retour.
Aïe, aïe, aïe.
Ils sont suspendus pour carton rouge et donc ils ne seront pas là pour le premier match. Et pour le Crew de Columbus, là, c'est particulier à dire, mais la première vraie organisation de l'histoire de la MLS, ils sont menacés de déménagement à Austin, au Texas. Donc, si jamais ça devait se concrétiser, ce soir pourrait être le dernier match de l'histoire du club à domicile.
Imagine s'ils gagnent la Coupe.
Écoute, s'il est assez effronté pour déménager un club qui gagne la coupe, là, ben tabarouette. Moi, je serais très déçu. Je peux pas dire que mes voyages à Columbus me font bien, bien triper là, avec l'impact. Ça, je peux te le garantir. Mais ceci dit, il y a de l'histoire là. Il y a un stade qui a besoin de rénovation, mais c'est pas vrai. T'sais, le stade est à 10 minutes du centre-ville. Là. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable. S'ils mettaient 10-15 millions dans le stade puis ils le rénovaient, là, c'est sûr que le stade il date d'il y a 25 ans. Mais il y a encore moyen de faire fonctionner cette organisation-là, selon
moi. Au moins, les Nordiques avaient déménagé avant de gagner la Coupe.
Ouais, je sais pas si c'est mieux ou pire, là.
Ouais,
mais...
non, je suis en train de tourner le fer dans la plaie, moi, là. Hein?
Ouais.
On va s'arrêter là-dessus.
Bye, à demain.
Bonne soirée, Philo.